Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions au SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Alors, le ministre du Budget assume. Il a préféré cette année baisser les impôts plutôt que le déficit. La priorité, il l'a dit lui-même, c'était de calmer la colère. La dette continue de se creuser, contrairement aux engagements du chef de l'État. Mais Bercy, en fait, joue sur du velours. Les taux bas permettent aux États de s'endetter et la France ne compte pas s'en priver, tout comme les particuliers ou les entreprises. L'économie fait un saut dans l'inconnu, celui des prêts à taux négatifs, avec par exemple des épargnants qui perdent quand les ménages endettés profitent, des banques qui ne gagnent plus d'argent et même des économistes qui proposent de distribuer 1000 euros à tous les Européens pour faire repartir la croissance. Alors la France a-t-elle raison de s'endetter encore? Les financiers jouent-ils avec le feu? La vie à crédit est-elle une chance ou un grand péril? Dette, taux négatif, la bombe à retardement, c'est une question et c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Dominique Seux, vous êtes directeur délégué à la rédaction des Échos, éditorialiste à France Inter, à la une des Échos justement. Aujourd'hui, ces milliards qui dorment sous les matelas. Vous nous expliquerez pourquoi dans un instant. Robin Rivaton, vous êtes essayiste, membre du conseil scientifique de la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. Je rappelle ce soir votre dernier ouvrage, Repenser la ville, repenser la propriété privée, aux éditions de l'Observatoire. Sophie Fay, vous êtes grand reporter à l'Obs. Enfin, Jézabel Coupet-Soubéran, vous êtes économiste, maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez coécrit l'ouvrage Parlons Banque en 30 questions, publié à la Documentation française. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je commençais à parler de Gérald Darmanin, du budget. Au fond, on se dit, cette fois, c'est fini, les économies, c'est plus la priorité.
Le gouvernement fait un calcul assez simple qui est de, et vous l'avez fort bien dit, c'est-à-dire on s'endette pour rien. C'était quelque chose d'incroyable. Vous savez, il y a une vingtaine d'années, il y avait un débat sur la cagnotte. Là, c'est une divine surprise. Il faut savoir que l'État, entre 2018 et 2020, va économiser 8 milliards d'euros sur ce qu'il paye en intérêt. Moins 8 milliards. Vous vous rendez compte, 8 milliards, on oublie un petit peu le nombre de zéros, c'est phénoménal. Et donc le gouvernement se dit, bon, on peut s'endetter et la colère des gilets jaunes vaut sans doute de s'endetter. Alors évidemment, mais on va en parler longuement, ça présente un certain risque. C'est un changement quand même par rapport à ce qui avait été dit pendant la campagne
présidentielle. Mais ça veut dire que la rigueur, les 3%, Bruxelles qui nous fait la leçon, c'est fini?
Non. Le niveau des déficits publics, ce sera l'année prochaine 2,2% du produit intérieur brut. Alors, pour la France, ça n'est pas beaucoup. Mais si on se regarde, si on se compare aux pays européens, c'est beaucoup. Nous serons peu ou prou encore le dernier de la classe, dans la classe européenne. Ouais. Alors évidemment, il n'y a pas de maître d'école et de classe, mais enfin quand même, nous sommes franchement mauvais. Mais c'est vrai que par rapport à ce que la France a connu depuis une dizaine d'années, c'est mieux. C'est mieux, 2,2. Le schéma initial, c'était 2%. On va passer à 2 pour 2020. On va passer à 2,2. Le calcul du président Emmanuel Macron, c'est de dire les Français ne vont pas défiler dans la rue pour dire c'est un scandale de passer de 2 à 2,2%.
Non, mais c'est intéressant parce qu'en début de quinquennat, on était quand même sur l'idée que, et le président Macron comme d'autres avant lui, que l'objectif, c'était quand même de désendetter la France, qui n'a jamais cessé en réalité de se creuser, de baisser les déficits, de faire des économies. On devait supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. On a l'impression que c'était le monde d'avant, ça.
Oui, effectivement, et passé par là. Mais ça a commencé au milieu du quinquennat de François Hollande, cette baisse des taux très, très, très forte. Cette baisse des taux, je le rappelle, elle fait que les gens qui vont prêter de l'argent à la France, donc parfois des ménages français, des ménages étrangers, des gens qui vont prêter cet argent à la France, ils le prêtent à des taux de plus en plus bas, jusqu'à prêter sur certaines maturités, aujourd'hui jusqu'à 10 ans, sur des taux négatifs. C'est-à-dire que la France ne rembourse pas 100, elle rembourse 95 à la fin au terme de l'emprunt. Et donc, évidemment, pour les gestionnaires de l'État, c'est une divine surprise. Mais la dette française continue de se creuser. On en parlait, chaque année, on emprunte toujours plus, on emprunte pour payer le passé et on emprunte encore plus. Les autres États, notamment l'Allemagne, aujourd'hui utilisent cet avantage pour d'emprunter à faible coût, voire même à taux négatif, pour se désendetter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'États européens qui sont en train de faire diminuer le niveau de la dette en se disant que cette divine surprise, comme disait Dominique Seux, elle ne va peut-être pas durer éternellement et qu'à un moment ou un autre, il faudra bien rembourser une partie des emprunts antérieurs. Et pour ça, il faudra bien se tourner vers des emprunteurs. Et ils ne nous diront plus que c'est à taux négatif. Ils nous diront que c'est comme avant, à 3%, par exemple, comme ça a été longtemps le cas auparavant.
Ça passe dans l'opinion. C'est vrai qu'on imagine mal des manifestations de gens qui pourraient aller dans la rue pour dire il faut faut faire baisser la dette. On s'est habitué à ça. Politiquement, c'est assumé. C'est ça qui est assez nouveau dans la bouche de Gérald Darmanin, de dire oui, bah oui, nous, on assume. On voulait d'abord relancer le pouvoir d'achat, baisser les impôts. Il dit c'est la plus grosse baisse d'impôts sous la Ve République. Plutôt, c'est faux. Oui. Il a dit ça ?
Oui, en fait, non, je crois que c'est faux.
Il le dit quand même.
Ben oui, mais c'est faux quand même.
C'est faux.
Non, mais il dit c'est 27 milliards. Oui. En fait, dans les 27 milliards, il met des baisses d'impôts qui sont programmées pour le quinquennat suivant, ouais. Notamment la baisse de la taxe d'habitation pour les 20% de foyers les plus aisés. Pour l'instant, il n'y a pas eu de baisse du tout. Il y aura un premier tiers de baisse pour eux en 2021. Et les deux autres tiers, c'est à l'automne 2022 et à l'automne 2023. Il me semble que le président Emmanuel Macron, a priori, n'est pas encore installé dans le fauteuil de l'Élysée pour le quinquennat 2022-2023.
Il y pense fortement.
Donc, c'est faux. On revient en équivalence pour l'enveloppe. C'est Lionel Jospin, 98-2001. Voilà, c'est l'enveloppe.
Mais en tout cas, il assume de dire « ma priorité, ça n'est pas de baisser les déficits ».
C'est assumé totalement depuis assez longtemps. Au début du quinquennat, Emmanuel Macron pensait qu'il fallait vraiment respecter les engagements européens pour pouvoir faire un tandem avec l'Allemagne pour réformer la zone euro. Comme de toute façon, ça n'a pas marché parce que Angela Merkel était elle-même empêtrée dans la vie politique allemande, le besoin de faire une coalition, etc. Aujourd'hui, il n'a plus cette corde de rappel. Donc cette corde de rappel qui venait par la politique étrangère, elle n'est plus là. Et à part cette corde de rappel, lui-même, il n'est pas du tout à cheval sur ce dogme. Il n'a pas d'idée très arrêtée sur le fait que la France se porterait mieux si elle avait 10 milliards de dettes en moins ou 20 milliards de déficit en moins. Sur la baisse de la dépense, ils ont essayé quand même avec Gérald Darmanin, il y a quand même des petits bouts qu'on va sentir passer. L'ajustement des allocations logement qui vont être ajustées en temps réel sur les revenus va faire quand même perdre de l'argent à certains foyers qui ne sont pas forcément les foyers les plus riches. Donc ça devrait quand même rapporter au budget. Ils essayent de faire des coupes ici et là. Et puis bon, après, pourquoi se priver ? De toute façon, maintenant, les économistes et les plus grands noms, comme Olivier Blanchard, l'ancien directeur des études du FMI, dit qu'il faut en profiter pour s'endetter.
Ouais, alors, il dit pas totalement ça.
Alors, si vous le voulez bien, on ne va pas commencer avec le débat d'économistes. On va y venir après. Là, on essaie d'expliquer aux gens qui nous regardent ce soir qui ont entendu parler, pendant des mois, des années, de la rigueur, de la nécessité d'être rigoureux sur la gestion des finances publiques, sur cette dette, ce poids de la dette qu'on laisse à nos enfants, nos petits-enfants. Et aujourd'hui, on a l'impression que parce que la BCE et les autres banques centrales ont dit « les taux bas, c'est maintenant, endettez-vous », que ça, ce n'est plus une réalité, qu'on a changé de modèle.
Alors on sort un peu de cette idéologie de la dette et du déficit public. Ce n'est pas si mal. Enfin, je ne suis pas sûre qu'on en soit tous complètement
sortis. Hein.
Mais on réalise une chose, au fond, c'est que le déficit public, c'est un instrument. C'est un instrument de politique économique. C'est un instrument de politique budgétaire. Et c'est ça aussi que nous rappelle Olivier Blanchard. Donc ça, c'est important. Et on a commis une erreur grave de politique économique, pas seulement en France, dans la zone euro, dans son ensemble, pendant toute la période de gestion de crise, c'est qu'on a tout attendu de la politique monétaire. On a laissé tout le travail de relance, tout le travail d'ajustement macro-conjoncturel.
Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est-à-dire, on a dit à la BCE, on compte sur vous pour ramener la croissance.
On a demandé à la BCE de faire le job entièrement, alors que la BCE, elle conduit la politique monétaire, elle ne peut pas tout faire avec la politique monétaire, surtout lorsque la politique monétaire est conduite pour l'ensemble de la zone, pour la moyenne de la zone. Après, si vous voulez, si on veut s'ajuster justement aux situations particulières de chaque pays de la zone euro, il faut manier l'instrument budgétaire. C'est important. On ne l'a pas du tout manié, cet instrument budgétaire.
Pour essayer d'être simple, on n'est pas entré dans une période où on va pouvoir faire la transition écologique, redistribuer du pouvoir d'achat, y aller à fond sur les déficits et la dette parce que les taux sont bas. On n'est pas entré dans cette période-là.
Alors si, bien sûr qu'on est dans une fenêtre d'opportunité. On a réalisé avec ce contexte de taux d'intérêt très bas, ces taux négatifs résultant de l'action de la Banque centrale, on a réalisé qu'effectivement, la politique budgétaire, ça pouvait être intéressant. Mais il aurait fallu le réaliser avant, parce que ça fait un petit moment que les taux sont bas, en plus.
Et on va voir que ça a des conséquences assez inattendues, y compris pour les particuliers, les entreprises.
Très concrète.
En tout cas, c'est un changement de cap. Le ministre du Budget ne fait même pas semblant. Il assume une dérive de ses objectifs en matière de déficit et de dette publique. La priorité, la baisse des impôts et le pouvoir d'achat. Et si Gérald Darmanin peut assumer, c'est que la bonne surprise des taux négatifs a permis à la France d'économiser 2 milliards d'euros cette année. Victoria Roussel et Lasso Jalabert.
C'est une interview qui révèle une approche plutôt inattendue de la part d'un ministre du budget.
Nous conduisons notre politique avec les réalités et pas avec de la comptabilité. Nous avons été à l'écoute du grand débat et nous avons préféré baisser les impôts plus vite que le déficit.
Accepter de creuser le déficit pour éviter un regain de colère suite à la mobilisation des Gilets jaunes et au grand débat. Le gouvernement a dû revoir ses dépenses à la hausse et donc lâcher du lest sur les objectifs budgétaires du début de quinquennat. Des ambitions qui devaient concorder avec les exigences européennes, passer sous la barre des 3% de déficit.
Ça fait 11 ans que la France est en procédure de déficit excessive. Ça fait 11 ans. Ça fait depuis 2006 qu'elle a une dette publique qui n'est pas stabilisée. Et ça fait maintenant 15 ans qu'elle voit sa dépense publique augmenter. Nous, nous baissons les impôts, nous baissons le déficit, nous stabilisons la dette.
Des prévisions optimistes pour réduire la dette, mais vite déjouées par la réalité économique. Moins 3,1% de déficit attendu pour 2019 et moins 2,2% pour l'année prochaine. Bien loin des 1,5% de déficit espéré en début de mandat. Notamment parce que l'État français emprunte beaucoup d'argent. Pour remplir son compte en banque, la France émet des bons du Trésor, une sorte d'action qu'elle vend à des investisseurs. Des opérations financières menées chaque semaine en direct de Bercy, par les équipes de l'agence France Trésor.
Je suis à 57,5.
14h30, mise en vente de titres. Anonymement, les banques sélectionnées font des offres.
On en a 14 participants pour un total de 11 milliards 835 millions. Vous voyez ici le montant total des ordres qui ont été déposés sur chaque ligne par les 14 participants. Donc un ordre, c'est bien, je suis prêt à acheter X milliards de titres, ou X millions de titres, on va plutôt parler de millions là, à tel prix.
20 minutes plus tard, fin des enchères.
Ça y est, adjugé, c'est arrivé sur les écrans. L'État vient d'emprunter 4,8 milliards d'euros. Ça s'est très bien passé, comme ça se passe très bien toutes les semaines.
C'est donc ici que se fabrique la dette française. Un mécanisme financier d'autant plus intéressant qu'en ce moment, les taux sont très bas, négatifs pour certains. Une aubaine pour la France qui rembourse donc moins qu'elle n'emprunte, des économies estimées à 2 milliards d'euros pour 2019. Mais du côté de l'opposition, la stratégie du gouvernement fait grincer.
Alors qu'on est dans une situation extrêmement difficile, d'incertitude croissante, on a le Brexit, on a le problème de la dérégulation des relations commerciales internationales, enfin, on a toutes ces questions extrêmement difficiles, un ralentissement dans toute l'Europe, on fait une fuite en avant en disant on baisse les impôts et on finance ça à crédit, c'est-à-dire par l'endettement. C'est une stratégie qui est quand même irresponsable.
Au-delà des simples considérations budgétaires, pour certains, c'est la crédibilité économique de la France qui est remise en question.
Mais je crois qu'il faut regarder un peu plus loin ce que ça signifie d'avoir des taux d'intérêt négatifs. Il y a deux pays qui ont des taux d'intérêt négatifs, c'est la France et l'Allemagne. Et quand vous regardez d'un point de vue économique ce que ça signifie, ça veut dire que si les investisseurs préfèrent vous prêter de l'argent et en plus vous payer pour vous prêter de l'argent, ça veut dire que ce sont des pays qui n'ont pas de futur économique. Ça veut dire qu'ils ne voient pas, dans le paysage économique qui existe dans nos pays, des sources d'investissement qui leur rapporteraient de l'argent. Et ça, c'est très grave, parce que ça nous condamne à avoir ce que j'appellerais un no future économique à 5, 10, 15 ans.
Si le ministre Gérald Darmanin salue une stabilisation de la dette française, certains chiffres alarment. Au premier trimestre 2019, la dette publique a atteint 99,6% du PIB.
On attend le passage au 100%.
Alors, le gouvernement s'est battu pendant toute l'année pour éviter que la virgule, alors c'est surveillé dans des bureaux à Bercy comme le lait sur le feu, parce qu'évidemment l'idée, le choc psychologique des 100% aurait été terrible. Il suffit, vous savez, dans un 100%, il y a un numérateur et un dénominateur. Si la croissance faiblit, on allait franchir les 100% et inversement. Donc pour l'instant, ils ont l'air relativement tranquilles.
Alors, une explication, cette question nécessite une explication. Un taux négatif, comment est-ce possible? Là, on a besoin de quelque chose de très simple, de minutieux. C'est vrai, comment est-ce qu'on peut emprunter 100 et demander, en fait, que la banque nous demande de rembourser 99 ou 95, comme vous le disiez tout à l'heure, pour la BCE?
Parce qu'il y a beaucoup d'argent partout. Et l'argent, d'où vient-il? L'argent, il vient à la fois des banques centrales, on l'a dit, mais aussi il y a de l'argent qui vient des pays émergents. Quand le monde se développe, l'Asie se développe, l'Amérique latine se développe, il crée de la valeur. Et donc, il y a de l'argent partout. Et l'idée a été, effectivement, de demander aux banques centrales de soutenir la croissance comme ça. Mais évidemment, les banques centrales se disent, les investisseurs se disent, et y compris les porteurs d'obligations français, que ce soit en direct ou à travers des fonds, ils se disent, bon, où est-ce que je suis sûr d'être remboursé? Et donc, les investisseurs sont certains, quand ils prêtent à l'État, en Allemagne, en France, aux États-Unis, ils sont certains d'être remboursés. Si c'est la PME en état de moyen de santé, il y a un doute. L'État, donc on accepte, quand on est prêteur, peut-être de perdre un petit peu d'argent, parce qu'à 30 ans, on se dit, là, au moins, c'est sûr. Mais évidemment, le risque, il est phénoménal, parce qu'on ne sait pas s'il n'y aura pas, dans 18 mois, dans 2 ans, une crise financière. Et à ce moment-là, les choses peuvent rebasculer de l'autre sens.
La source de tout ça, à la base, c'est quand même les banques centrales. Les banques centrales, elles ont un mandat. Leur mandat est très simple pour celui de l'Union européenne, c'est de faire en sorte que l'inflation, donc tous les biens et services qu'on achète, la baguette, qui est le panier d'inflation qui est composé de tout ce qu'on achète au quotidien, augmente de 2% par an. Ça n'y est pas du tout depuis 10 ans. C'est un objectif qui est non atteint. Et même pire que ça, c'est le mandat officiel est à 2%. Et les objectifs de la Banque centrale en 2021 sont de dire on atteindra 1,5%. Donc même la Banque centrale elle-même reconnaît qu'elle n'arrive pas à tenir cet objectif. Donc qu'est-ce que les banquiers centraux, Mario Draghi en tête depuis maintenant un bon paquet d'années, qu'est-ce qu'ils font? Ils injectent de l'argent dans l'économie pour essayer de voir remonter le taux vers les 2%. Et aujourd'hui...
Mais ça ne marche pas.
Et puis ils n'injectent pas de l'argent dans l'économie. Ah bah. C'est bien ça qu'il faut comprendre. En fait,
si vous voulez bien, on va laisser finir Romain Rivaton.
Pardon.
Allez-y.
Il y a plusieurs canaux de transmission de la politique monétaire vers l'économie. On peut le faire de différentes sortes. Vous avez cité le cas le plus extrême, on en parlera peut-être, qui est de dire on peut donner 1 000 euros à chacun des citoyens de la zone européenne. L'idée de la création monétaire aujourd'hui, elle passe par un intermédiaire qui sont les établissements bancaires. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour que ces établissements bancaires prêtent? On leur dit, tous les dépôts que vous laissez à la Banque centrale, on va les mettre à taux négatif. Et ces dépôts que vous mettez à la Banque centrale à taux négatif, c'est des dépôts que vous n'avez pas intérêt à laisser chez nous, mais que vous devez plutôt utiliser pour financer la fameuse PME dont vous parliez tout à l'heure, un ménage qui veut acheter, et ainsi de suite. Donc on essaye de pousser les banques à bien prêter l'argent, à bien l'utiliser, à non pas le stériliser. Bon. Et donc c'est ce qu'on essaie de faire avec cette Banque centrale.
Juste, pardon, vu d'ici, ça paraît pas normal. Pardon de vous le dire comme ça. Je vais à ma banque, j'essaie de faire un crédit, puisque ça ne se fait pas encore en France, mais ça se fait en Allemagne, et on me dit, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir utiliser un taux négatif. Il y a un côté dysfonctionnement qui est assez inquiétant.
Et que ne comprend pas, évidemment, beaucoup de gens de manière commune, mais ont du mal à comprendre aujourd'hui. Il y a un grand désarroi de la part et des banquiers centraux et d'une grande partie des économistes. Puisque aujourd'hui, on ne comprend pas comment, avec ces mécanismes tels qu'ils sont, et vous pouvez dire qu'on peut aller encore plus loin, mais je pense qu'on est déjà allé quand même très loin là-dedans, on ne comprend pas comment ça ne se traduit pas sur cette fameuse inflation des biens du quotidien. Et donc aujourd'hui, ce désarroi dont vous parlez, il est partagé par beaucoup de gens. Et on a un exemple qui est celui du Japon, où depuis des années, on continue d'injecter massivement, de faire de la création monétaire, et ça ne marche toujours pas à créer cette inflation.
Quelles sont les conséquences?
Est-ce qu'on peut juste préciser une chose? Ce ne sont pas les banques centrales qui créent la monnaie, ce sont les banques qui créent la monnaie. Et toutes les liquidités mises à la disposition des banques par les banques centrales, ce n'est pas de la monnaie qui s'injecte directement dans l'économie. Ce n'est pas de la monnaie qui va circuler directement dans l'économie. Sinon, tout le monde serait très riche. Sinon, tout irait bien aujourd'hui dans l'économie, vu les milliers de milliards de dollars et d'euros qui ont été injectés par les banques centrales. Cette monnaie-là, c'est une monnaie de banque centrale, d'accord, qui reste en fait dans le circuit monétaire. Ensuite, il faut que ça passe par le canal bancaire, pour que ça puisse ensuite, si vous voulez, circuler dans l'économie.
C'est-à-dire que des gens fassent des crédits, qu'on fasse des emprunts?
C'est ça. Il faut que les banques Et des demandes de crédit, ouais. Qu'elles offrent du crédit. Bon. Le crédit aujourd'hui, surtout le crédit aux entreprises, surtout le crédit à la PME du coin, c'est plus le job essentiel des banques. En tout cas, c'est plus le job essentiel des grandes banques.
Quelles sont les conséquences de ces taux négatifs? On est, est-ce déjà, enfin, c'est très courant, je ne sais pas, de mémoire de journaliste, je me dis, c'est assez, c'est arrivé déjà dans l'histoire.
Les conséquences, c'est qu'on perd un peu tous les repères. Vous voyez, cette règle des 3%, par exemple, de déficit, bon, elle avait été faite sur un coin de table au moment de sous François Mitterrand, mais en même temps, après, on lui a donné une logique. On s'est dit, si on reste en dessous de 3%, en fait, nos déficits ne font pas augmenter la dette, compte tenu des taux d'intérêt et des taux de croissance. Et tout à coup, avec des taux négatifs, ben, ces 3%, ils ne veulent plus rien dire. Donc, les faire respecter, les appliquer, qu'est-ce que ça veut dire? On n'en sait plus rien, donc on ne sait plus comment contrôler. Ensuite, tout devient très compliqué. Et puis, c'est très difficile à comprendre pour les gens. On leur dit qu'il n'y a pas d'inflation. On n'arrête pas de répéter qu'il n'y a pas d'inflation. Mais quand on regarde autour de nous, on ne voit que des prix qui augmentent. On voit des prix de l'immobilier qui augmentent, on voit des tarifs qui augmentent. Et en fait, il y a moins d'inflation parce que il y a des phénomènes qu'on ne voit pas. Il y a le progrès technologique dans le téléphone. Donc, votre téléphone, le prix augmente, mais en fait, ce que vous achetez, c'est moins cher à cause du produit technologique. Et puis, on a une population qui vieillit en France et en Allemagne. Et quand on vieillit, on est moins augmenté, on a moins d'augmentation salariale que quand on est en début de carrière. Donc, il y a tout ça qui freine. Et bon, voilà, on ne voit pas trop le lien, il faut être honnête, entre ces taux d'intérêt négatifs et cette inflation.
En fait, l'État se frotte les mains, il n'y a aucun doute. Mais l'épargnant, lui, se ronge les ongles. Pourquoi ? Parce que, évidemment, l'État se réjouit, c'est formidable, magnifique, on l'a dit, les milliards. Mais passons à l'économie très concrète, la nôtre, pratique. Ouais. Ça veut dire que ceux qui empruntent pour acheter un logement, les taux d'intérêt baissent, formidable. C'est valable quand vous habitez dans une ville où les prix d'immobilier ne montent pas. À Paris et dans les grandes villes, les taux d'intérêt baissent, mais en même temps, les prix montent. Donc, on ne sait pas très bien, à la fin, si on gagne. On gagne en région, on perd dans les très grandes villes. Ça, voilà pour l'immobilier. Maintenant, le point essentiel et qui, j'imagine, concerne beaucoup les personnes qui nous regardent, c'est et mon assurance-vie, et mon livret A.
Qu'est-ce que ça vaut ?
L'assurance-vie. Voilà, l'assurance-vie, pendant des années, il y avait une rémunération de, je sais pas, 2,5, 3, 4% dans les grandes années. Aujourd'hui, c'est 1,6%. Et encore, il faut enlever la fiscalité, c'est-à-dire la CSG, l'impôt sur le revenu, etc. Donc, vous avez un rendement qui est peut-être en dessous de l'inflation. Donc, vous risquez de perdre de l'argent. 1 700 milliards d'euros des Français sont sur des comptes d'assurance-vie. Pourquoi ? Pour assurer vieux jours, la retraite, un complément de retraite, ou pour transmettre à ses enfants, etc. C'est un changement considérable de voir une épargne qui ne rapporte plus d'argent. Alors, évidemment, les actions, elles montent, mais l'épargne de père de famille ou de mère de famille, elle a beaucoup baissé.
Ça veut dire, Dominique, ce, qu'on est rentré dans une ère où on encourage les personnes endettées et on sanctionne les personnes qui épargnent.
Eh bien, absolument. Et c'est pour ça que les Allemands sont furieux. La semaine dernière, quand la Banque Centrale Européenne a pris la décision de baisser à nouveau ses taux d'intérêt, eh bien, le patron de la Bundesbank a piqué une rage et Mario Draghi a même été caricaturé à la une du, je crois que c'était
du Bild,
le Bild-Zeitung, en Dracula. Oui. Voilà, il nous prend notre argent. Parce que les épargnants allemands, c'est un pays qui vieillit, chacun le sait, les épargnants allemands disent, mais et notre argent, c'est à cause de l'euro, ça fait 15 ans, 20 ans qu'on a un euro, où notre argent n'est plus rémunéré.
Ça crée des tensions politiques, ça ?
Ça crée évidemment des différences d'appréciation, ça ne peut pas tenir éternellement. Et donc, c'est l'avenir de la zone euro qui va se poser à un moment ou à un autre.
Ça veut dire que dans la zone euro, les vertueux sont sanctionnés aujourd'hui ?
C'est en tout cas comme ça qu'ils le vivent. C'est comme ça qu'ils le vivent.
En réalité, il se passe un truc incroyable quand même. Comme les taux d'intérêt sont négatifs en Allemagne et sont positifs aux États-Unis, on est en train de voir que l'épargne des Allemands, des épargnants allemands, est investie dans la dette américaine. Donc ça finance les baisses d'impôts et les projets de Donald Trump et ça ne finance pas nos projets en Europe. En réalité, ce qui devrait se passer, c'est que les Allemands qui sont en excédent budgétaire, qui ont une industrie qui n'a pas le bon modèle, puisque leur moteur, le diesel, la chimie sont en panne, devraient investir massivement pour changer de modèle. Et donc, l'argent, il devrait recréer de la dette. Et s'il recréait de la dette, les taux d'intérêt monteraient et on s'en sortirait. Mais aujourd'hui, ils sont arc-boutés sur cette règle qu'ils appellent le Schwarze-Null, noir pointé. Ça veut dire qu'il faut être que les comptes soient dans le à l'équilibre, nul, zéro, ou bien dans le noir, ce qui correspond pour eux à être dans le vert.
D'accord.
Donc, il faut que le budget soit à l'équilibre ou mieux, en excédent. Et il ne déroge pas à cette règle parce qu'elle est très populaire.
Mais parce que ça fait des années que c'est la règle qui prévaut en Allemagne pour des raisons historiques qu'on connaît.
Pas pour des raisons historiques. Ça a été. On a commencé à en parler après la crise financière parce que les Allemands étaient très choqués qu'il ait fallu renflouer les banques et ils voulaient que les comptes soient à l'équilibre pour se sentir plus en sécurité. Et donc cette règle, elle a été adoptée à partir de 2009. Wolfgang Schäuble, qui était ministre des Finances, a réussi à atteindre l'objectif en 2014. Maintenant, son successeur, qui est un social-démocrate, donc qui pourrait changer de politique, qui pourrait être plus keynésien, se dit, mais si je change de politique, je vais perdre ma popularité. Et donc, il maintient, mais c'est une aberration économique.
Donc, ça veut dire que ça, c'est vertueux, comme ce qui est en train de se passer. C'est vertueux pour l'économie. Alors, la croissance en France se passe est plutôt meilleure que celle des Allemands, puisque vous parliez de l'Allemagne. En gros, on rajoute, vous avez très bien expliqué, de l'argent dans le système pour relancer la machine. On emprunte, on achète des appartements parce qu'on fait des crédits qui sont à taux bas. En Allemagne, je le rappelle, parce que c'est quand même dingue, les particuliers font des emprunts à taux négatifs. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça relance la machine?
Alors, c'est la vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce que si la Banque centrale n'avait pas fait ça, qu'est-ce qui serait passé dans la zone euro ces dernières années? Et malheureusement, on ne peut pas le prouver par l'inverse. Et il y a une étude de la Banque d'Angleterre qui est sortie l'année dernière qui disait qu'au final, le quantitative easing, donc cette création monétaire, après que les banques la répercutent ou pas, cette création monétaire avait plutôt réduit les inégalités. Parce que si on ne l'avait pas faite, on aurait continué d'avoir un taux de chômage très très élevé. Il y a des gens qui n'auraient pas accédé au marché de l'emploi, il y a des gens qui n'auraient pas pu avoir du travail et donc de facto ça a permis quand même de réduire les inégalités. C'est le vrai point de tension de toute cette politique parce qu'aujourd'hui vous avez parlé des épargnants, des gens qui s'endettent, bon très bien. La vraie question c'est on fait monter le prix des actifs avec cette politique.
Le prix des logements, le prix des actions qui a atteint des sommets.
Donc les gens qui avaient déjà ces actifs avant la crise financière voient leur patrimoine grimper. Ceux qui ne l'avaient pas, ils se retrouvent un peu bloqués. Alors ils peuvent essayer de dire je peux emprunter. Donc ça augmente les inégalités. Et donc aujourd'hui on est sur un point de tension, un chemin de crête entre cette augmentation des inégalités de patrimoine et le fait de dire que si on ne fait pas cette politique, ce qui nous guette c'est une récession très forte et donc ce qui va frapper.
C'est ça que je voulais vous poser comme question. Est-ce qu'on est dos au mur? Est-ce que si les banques centrales font ça, il paraît que ce soir la Fed, la Banque centrale américaine, demain soir pourrait encore décider de baisser les taux, ce que lui demande Donald Trump. Est-ce que c'est parce qu'on est dos au mur et qu'on a tous terriblement peur de la récession?
Aux États-Unis, on peut dire qu'il y a des impacts politiques. Et en tout cas, il y a une part qui est très liée au contexte, à la dégradation du contexte commercial, à la guerre avec la Chine que mène Donald Trump, qui a dégradé les perspectives de l'économie américaine. En Europe, aujourd'hui, le banquier central qui osera appuyer sur un bouton pour restreindre donc la masse monétaire, pour réduire cette masse monétaire, il n'est pas encore né. Parce que le courage politique qu'il faudra avoir et dire que derrière, ça peut déclencher une récession, ce n'est pas demain la veille.
Une question piège. Combien de temps ça va durer? Parce que là, c'est formidable. Les États s'endettent, les particuliers s'endettent. Bon, ça profite, vous avez expliqué que ça creusait des inégalités, mais ça profite à certains qui ont du patrimoine ou ceux qui sont en train de se le constituer. Ça énerve les Allemands, je résume. Ça dure combien de temps? Parce que si ça s'inverse, on est un peu inquiet du coup.
Ça va durer vraisemblablement jusqu'à la prochaine crise financière, parce que les conséquences de ces taux extrêmement bas, de ces taux négatifs, c'est la montée des prix de l'immobilier, des prix des titres sur les marchés. Il y a des bulles qui se sont formées.
Bulle immobilière ?
Alors, bulle immobilière, on s'interroge toujours. C'est peut-être pas vrai, si vous voulez, partout. Mais en tout cas, il y a une montée, des prix de l'immobilier qui peut effectivement donner le sentiment qu'une bulle se forme. Des bulles également sur des marchés obligataires. Parce qu'on a évoqué les taux négatifs, là, comme si les taux étaient négatifs sur tous les actifs partout. Ouais. Mais non, les taux sont négatifs sur certains titres, en particulier les titres obligataires des États, d'accord, les titres souverains, les obligations avec lesquelles les États se financent, et les États bien notés, si vous voulez, ceux qui vont incarner en fait
la stabilité.
La stabilité, ceux dans lesquels les investisseurs ont confiance. Donc ceux-là ont des taux négatifs parce que pour les investisseurs, les titres de ces États sont des valeurs, refuges. Il y a des obligations d'entreprise qui sont également à taux négatif. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui peuvent se financer sur le marché à taux négatif. Mais vous, si vous contractez un prêt auprès de votre banque, il n'est pas encore à taux négatif.
Ce serait possible en France, ça, les taux négatifs?
Alors, ce serait possible dans les pays où les banques peuvent elles-mêmes se refinancer auprès de la banque centrale à taux négatif. Or, ce n'est pas le cas. Non.
Non,
non.
Ça existe en Allemagne.
Le taux auquel les banques se refinancent en Allemagne, c'est le même taux que celui auquel les banques se refinancent en France auprès de la Banque centrale, c'est zéro. D'accord ? Le taux négatif parmi les taux directeurs de la Banque centrale, ce n'est pas le taux auquel les banques se refinancent.
J'arrive pas à savoir si, à la question, est-ce que ça va durer ? Christine Lagarde a dit, je ne sais pas.
Ça va durer jusqu'à la prochaine crise financière.
En fait, mais le problème, c'est quand la prochaine crise financière ? Il y a certains économistes américains dans les grands journaux financiers américains qui disent, ça va durer 8 ans, 9 ans. En fait, personne ne sait.
Alors,
personne.
On a la réponse.
Dominique, c'est la réponse, alors c'est maintenant. Non,
Il y a une crise financière tous les 10 à 15 ans. D'accord. Il y a eu des crises financières en 98. 97-98, c'était en Asie. Il y a eu la crise mondiale, ce qu'on appelait la récession, la grande récession, c'est 2008-2009. Nous sommes 10, 11 ans, 12 ans après. Évidemment, ça n'a pas de valeur statistique, mais on sent que des choses sont en train de se former. Nous sommes dans la période où les inconvénients commencent à l'emporter sur les avantages de ce qui s'est passé depuis 10 ans. Il y a eu des formidables avantages à cette politique d'argent injecté d'hélicoptères, d'argent injecté partout, pour les particuliers, pour les États, pour la croissance. Ça a quand même permis de sauver la zone euro, ça a soutenu la croissance, ça a évité, ça a mis de l'huile dans les rouages du commerce international. Mais on bascule maintenant dans les inconvénients. Nous sommes un peu dedans maintenant, et évidemment, plus on va s'enfoncer dans les inconvénients, plus les risques d'explosion vont apparaître.
Et on va parler des inconvénients, et en particulier pour les banques, parce que quand les taux sont à la baisse, ce sont plutôt les banques qui trinquent et qui ne se financent plus sur les crédits. Les premiers signaux d'alerte sont là. BNP Paribas va supprimer 500 postes en France. En Allemagne, c'est la puissante Deutsche Bank qui a annoncé 18 000 emplois en moins, le plus grand plan social de son histoire, à croire que le secteur bancaire est la nouvelle sidérurgie. Juliette Vallon, Barbara Steck.
La Deutsche Bank, symbole de la puissance économique de l'Allemagne, aujourd'hui face au plus grand plan social de son histoire. Début juillet, la banque a annoncé le licenciement de 18 000 employés, un cinquième de ses effectifs.
De telles nouvelles sont toujours difficiles. Et cela signifie que lorsque nous fermons des activités, nous réduisons également le nombre d'employés. Et nous le ferons partout dans le monde.
Un séisme dans le monde de la finance qui ne s'arrête pas aux frontières de l'Allemagne. Plusieurs autres banques européennes sont elles aussi touchées par des réductions d'effectifs, comme la Société Générale en France, qui supprime 1600 emplois, et la BNP Paribas, 500. Des vagues de licenciements qui concernent également des banques anglaises ou espagnoles. Au cœur de ces difficultés, les taux d'intérêt historiquement bas qui font baisser les marges des banques, obligées de réduire leurs coûts, confrontées en plus à la mutation de leur secteur d'activité, avec notamment le développement des services en ligne.
On l'a dit souvent que les banques, c'est un peu la sidérurgie de demain, et d'aujourd'hui même. C'est-à-dire qu'elles ont trop de personnes, elles ont des agences dans lesquelles plus personne ne va, donc elles sont obligées de se restructurer presque pour se transformer en fintech. Elles doivent être des entreprises de technologie financière et plus des banques traditionnelles. Et ça implique, on parle quand même de 800 000 personnes à peu près en France, ça implique un mouvement social qui sera un mouvement social vaste.
Des banques fragilisées et pas vraiment aidées par la politique mise en place par la Banque Centrale Européenne.
Nous avons décidé de baisser le taux de dépôt de moins 0,40% à moins 0,50%.
Face à une croissance au ralenti, l'institution a décidé d'appliquer un taux négatif sur les dépôts excédentaires des banques stockés dans les coffres de la BCE. Une sorte de taxe pour les obliger à relancer le crédit et les inciter à prêter aux particuliers et aux entreprises. Alors pour ne pas perdre trop d'argent, certains établissements suisses et allemands ont déjà trouvé une solution. Taxer eux aussi les dépôts de leurs clients à partir d'un montant très élevé. Interrogé, le gouverneur de la Banque de France souhaite rassurer les Français.
Aucune banque française n'applique aujourd'hui de taux négatif à ses déposants particuliers habituels ou à ses PME, et nous comptons bien que cela demeure en l'état. Les établissements dont vous parlez sont des établissements de gestion de fortune qui visent des très gros patrimoines. On a parlé de comptes courants supérieurs à 1 million d'euros. il n'est pas question que ceci s'applique aux particuliers habituels ou aux PME.
Des taux très bas qui ne font paradoxalement pas fuir les épargnants français. Au mois de juillet, le livret A a réalisé une collecte record de plus d'un milliard d'euros.
C'est bon signe, ça, que les épargnants épargnent.
C'est quand on épargne sur des produits, le livret A, ça veut dire qu'on n'a pas une confiance formidable dans ce qui porte l'économie principalement, c'est-à-dire quand même les actions d'entreprise. Actions, d'ailleurs, ce n'est pas forcément les actions cotées en bourse, ça peut être des investissements dans des PME, dans des développer une activité, ça veut dire qu'on a, on a envie de se rassurer. D'autant plus que le livret A est quand même à 0,75, ce qui n'est pas magnifique. C'est-à-dire que les gens se précipitent. Ça veut dire qu'il y a de l'épargne en France, il y a de l'argent en France. Alors, il est inégalement réparti, sans aucun doute, hein, mais il y a de l'argent disponible parce qu'il est créé, parce que les salaires, malgré tout, progressent et que tout le monde se demande où il vaut mieux placer son argent.
Alors, justement, il y a cette question qui nous est posée ce soir. Où placer son argent aujourd'hui ?
Ben, on a envie de dire spontanément, le meilleur endroit pour le placer, c'est l'action, logiquement. C'est les actions d'entreprise. Mais en réalité, les Français ont une sorte d'aversion au risque, plus qu'ailleurs, d'accord, on peut les comprendre. Il y a eu des cracks financiers. Il y en a eu un en 2001, il y en a eu un en 2008-2009. Donc tout le monde est vacciné. Mais la logique, c'est de placer là où ça rapporte quelque chose. Ça n'est pas sur le livret A que ça rapporte le plus, ni sur l'assurance vie.
Oui, il y a un phénomène très intéressant dans cette matière. C'est que les Français normaux, qui ne s'y connaissent pas beaucoup en finance, et puis à qui on ne veut pas faire prendre trop de risques quand même, ils placent leur argent sur leur livret A ou dans des SICAV monétaires ou sur des contrats d'assurance vie classiques. Et donc, ils subissent une érosion de leur capital à cause de ces taux d'intérêt très faibles. Pendant ce temps-là, et c'est très bien raconté dans le dernier livre de Thomas Piketty, les gens beaucoup plus riches, beaucoup mieux informés, qui sont dans une sorte de cercle d'initiés et qui connaissent bien les bonnes affaires, eux, ils placent leur argent dans des sociétés qui ne sont pas encore cotées en bourse, qui viennent de se créer, ils ont tout à fait confiance dans le créateur, et quand ces sociétés rentrent en bourse, là, c'est le jackpot. Donc on voit les patrimoines des ménages, les patrimoines moyens des ménages qui diminuent. Il y a une étude de l'assureur Allianz ce matin qui montre qu'en 2018, les patrimoines ont légèrement diminué. Mais ce qu'on voit, c'est que les patrimoines des plus riches, eux, augmentent de 7 à 8%.
Donc c'est un système qui creuse les inégalités, c'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Oui, en fait, ce qu'ont fait les banques centrales pour gérer la crise n'a pas eu des effets positifs pour tout le monde. Là, on se préoccupe du sort des épargnants, mais il y a plein de gens qui ne peuvent pas épargner, tout simplement, parce qu'on n'a pas, remis nos économies sur un sentier de croissance soutenable et puis qui inclut tout le monde. Donc oui, il y a eu des effets inégaux sur l'économie réelle.
Dans la catégorie des perdants, il y a les banques ?
Alors, dans la catégorie des perdants, il y a, comme le disait Dominique tout à l'heure, il y a surtout des investisseurs de long terme, des assureurs, des fonds de pension, et qui normalement doivent avoir une gestion assez patiente de leur portefeuille, de leurs titres. Ils attendent longtemps, ils détiennent les titres longtemps, et là, ça va être problématique pour eux, effectivement, de récupérer moins que ce qu'ils ont investi. Les banques se plaignent beaucoup des taux négatifs, mais en fait, celles qui s'en plaignent le plus ne sont sans doute pas celles qui en souffrent le plus. Il y a une étude récente là, qui est sortie dans une revue académique très sérieuse et qui étudie l'impact des taux négatifs sur les banques. Ce que ça nous montre, c'est que ça touche davantage les banques de petite taille que les banques de grande taille. Pourquoi ça ? Parce qu'en fait, les banques de grande taille, elles ont toute une gamme d'activités. Alors certes, elles voient...
D'assurance, par exemple, de choses comme ça.
Exactement. Donc les taux négatifs, ça affecte la marge que les banques prennent, la marge, ce qu'on appelle la marge d'intermédiation, c'est-à-dire la différence entre ce que la banque gagne sur ses clients emprunteurs et puis ce qu'elle paye à ses clients prêteurs. Et bon, ça, si vous voulez, quand les taux sont très très bas, et surtout quand ils sont très très bas à la fois sur le court terme et sur le long terme, eh bien, ça écrase la marge. Mais ça, c'est qu'une partie du chiffre d'affaires des banques.
Il y en a qui s'en sortent très bien, c'est ça que vous voulez...
En tout cas, les grandes banques aujourd'hui ne sont pas si affectées que cela par les taux négatifs. Il faut davantage se préoccuper du sort des assureurs et du sort des investisseurs du sort des investisseurs de long terme. Et si elles ont des problèmes de rentabilité, ce sont des problèmes de rentabilité qui sont beaucoup plus structurels, qui sont liés en fait à l'évolution de leur modèle d'activité depuis des décennies.
La fermeture des agences, etc. Le fait qu'elles doivent adapter leur fonctionnement à une nouvelle réalité, c'est ça ? Parce que
Le fait surtout qu'elles se soient éloignées autant de leurs activités traditionnelles, de gestion de dépôts, d'octroi de crédit, et qu'elles aient autant développé leurs activités sur les marchés financiers.
Dans le sujet, on entendait quand même qu'il faudra peut-être payer un jour pour laisser son argent à la banque.
Alors
Oui, ça peut arriver. Bon, là, on parle de très, très gros patrimoine. Et parfois, dans certaines institutions financières, où ces dépôts étaient rémunérés. C'est par exemple le cas dans le système bancaire américain, où les dépôts sont rémunérés par les banques. Chez nous, en France, les dépôts ne sont pas rémunérés. Donc, on peut se dire, de l'autre côté, il n'y a pas non plus une taxe ou un taux d'intérêt négatif qui pourrait s'abattre sur eux. Mais bon, c'est quelque chose qui, évidemment, fait peur. Après,
Oui, un peu.
Bien sûr. Et ça se comprend. Mais il faut bien avoir en tête qu'au-delà de la situation de l'épargnant, il y a vraiment un sujet aujourd'hui. Et je pense que les banques, comme vous l'avez dit, ne sont qu'un point de problème. Aujourd'hui, la personne qui souffle le plus, c'est le Fonds des réserves des retraites du Japon, qui aujourd'hui est un des plus gros placeurs d'argent au monde et qui aujourd'hui, il l'a dit début août, ne trouve plus de quoi assurer d'un rendement suffisant pour les retraites. Les fonds de retraite et les retraites par capitalisation fonctionnent en partant d'un principe qu'on assure un rendement chaque année qui permet, lorsque la retraite se déclenche, de verser une retraite aux personnes qui sont concernées. Si le rendement baisse chaque année, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est-à-dire qu'il faut mettre plus d'argent initialement. Le mois dernier, les entreprises américaines ont dû verser 32 milliards de plus dans leur fonds de réserve des retraites, puisque c'est elles qui gèrent leur fonds de réserve des retraites, parce que sinon, elles ne pouvaient pas atteindre les objectifs. Et donc, on a le sujet des épargnants actuels, on a le sujet des retraités demain dans les régimes de capitalisation.
En fait, les Français et les banques ont signé un contrat il y a 50 ans, et le contrat était très simple. Vous n'avez pas, vous Français, à payer les chèques pour utiliser des chèques, mais en contrepartie, on ne rémunérera pas les dépôts, l'argent que vous déposez. C'est une sorte de deal global. D'autres pays ont fait d'autres choix. D'accord. La France a fait ce choix-là. Si les banques se mettaient à taxer les dépôts, le contrat est rompu. Et donc, les banques ne le feront pas. Elles le font pour au-delà d'un million d'euros. Et d'ailleurs, ce sont des petites banques spécialisées en gestion de fortune. Elles le font. C'est une manière de dire aux déposants qui ont un million d'euros sur leur compte, vous êtes complètement stupides de laisser votre argent là, placez-le ailleurs. Mais ce qui est compliqué pour les banques, c'est qu'à la fois, effectivement, elles gagnent moins d'argent sur les crédits, c'est clair, mais qu'en même temps, elles sont dans une mutation incroyable. Il y a le changement de nos habitudes. En 2010, un Français sur deux allait deux à trois fois par mois dans son agence. Qui va dans son agence aujourd'hui une fois par mois ? En 2016, c'était passé à 20% aller plusieurs fois par mois dans l'agence. Depuis 2016, les banques n'ont pas osé reposer la question dans un sondage. Ça doit être 5 à 10%, je ne sais pas, mais ça doit être dans ces eaux-là. Ça veut dire que le réseau physique doit, dans certains cas, fermer, mais évidemment, dans des petites villes, c'est très difficile, et c'est un point important, se diversifier, faire autre chose, avoir des conseils différents. Et puis on sait bien que l'intelligence artificielle, on commence à recevoir des messages sur nos téléphones pour nous dire, avec tel type de revenus, vous devriez faire ceci. Et ce sont des voix métalliques, vous savez, qui vous... Donc les banques sont dans une mutation absolument incroyable. Et il y a en même temps cette affaire de crédit. Donc, on a l'impression que les banques vont très très bien parce qu'elles sont solides, il y en a très peu en France. La concurrence...
On n'a pas l'habitude de pleurer sur le sort des banques.
Non, et la concurrence est plus ou moins forte, disons. Ouais. Mais on est en train de changer de modèle.
Il faut quand même être très vigilant parce que même s'ils ne disent pas qu'ils vont faire payer pour les dépôts, ils font quand même quelque chose de plus en plus souvent, c'est qu'ils nous font payer des commissions pour tenir nos comptes. Et quand on regarde...
C'est les frais bancaires, c'est ça ?
Les frais bancaires. Et il va y avoir quand même une tentation là, compte tenu de ce contexte, d'essayer de faire monter ces commissions. Alors, heureusement, maintenant, il y a la concurrence des banques en ligne qui, elles, essayent d'être les mieux disantes sur les frais. Donc, on peut comparer, mais il faut vraiment être vigilant et regarder cette concurrence parce que la contrepartie va arriver quand même de cette manière-là.
Est-ce que c'est lié ou pas, un chiffre qui était d'ailleurs dans votre journal, Dominique Seux, aujourd'hui, 600 milliards d'euros qui dorment sous les matelas, c'est-à-dire en Europe. 600 milliards d'euros. C'est-à-dire, on a l'impression que dans le circuit de l'économie, il n'y a plus de liquide, il n'y a plus de liquidité. En réalité, il y en a, mais les gens les mettent sous les matelas, enterrés au fond du jardin. Ça, c'est lié à la situation actuelle, à la fébrilité qu'on peut anticiper.
C'est lié sans doute à la fébrilité actuelle, mais depuis 10 ans, qu'ont les Européens sous les yeux, les habitants de la zone euro, puisqu'il s'agit de ça, ils ont eu la crise grecque, À ce moment-là, on a dit la zone euro va exploser, l'euro c'est fini. Donc les gens se sont dit, ouais, là, oh, donc j'en mets un petit peu au fond du jardin. Il est écrit dans le document que vous mentionnez de la Banque de France que certains le mettent dans leur jardin, au fond, voilà, dans une boîte à chaussures, ou plus gros si nécessaire, au fond de leur jardin. Mais ce sont les pays d'Europe du Nord qui sont très concernés. 25% des Allemands et peut-être des Néerlandais ont de l'argent thésaurisé. Voilà, des réserves. Du côté des Français, c'est nettement moins, ça tourne autour de 10-15%. Donc les Français sont peut-être, je ne sais pas, ils préfèrent placer sur le livret A et l'assurance vie, malgré tout, mais les Allemands sont un peu inquiets. L'Allemagne est un pays qui utilise encore beaucoup de liquide, en fait. Hein. La France utilise très, très peu de liquide. La monnaie, aujourd'hui, c'est évidemment les cartes bancaires.
Est-ce que vous voyez, dans ce qui se passe sur les marchés financiers, dans le comportement des épargnants, dans ce que disent les banquiers centraux, des signes inquiétants? On disait, ça peut durer 8 ans, ça peut ne pas durer, vous disiez, ça durera jusqu'à la prochaine crise financière, qui est une, en réalité une formule qui résume assez bien la situation dans laquelle on est. Est-ce qu'il y a des signaux inquiétants pour les gens qui scrutent ce qui est en train de se passer, comme vous le faites ?
Le problème de, cet argent qui a été créé, c'est qu'on ne sait pas où il se retrouve. Donc il est allé s'investir dans certaines poches d'actifs qui paraissaient très rentables, mais dont on ne sait pas si ces entreprises derrière sont si efficaces. Et donc aujourd'hui, on sait par exemple qu'il y a un compartiment du marché qui sont des entreprises à risque, auxquelles on a prêté de l'argent parce que l'argent était facile, pas forcément parce qu'elles étaient en bonne santé, donc parfois on les appelle les entreprises zombies. Et on sait que sur ce segment-là, notamment aux États-Unis, parce que c'était très rentable de leur prêter, donc on pouvait leur prêter à 7, à 10, à 15%. Donc dans un contexte, quand vous êtes à moins 0,4, quand vous pouvez prêter à 7%, c'est intéressant. Le problème, c'est que ces entreprises, on ne sait pas si elles sont en bonne santé, on ne sait pas si elles vont durer. Et il n'est pas impossible qu'à un moment ou à un autre, il y ait un crack sur une de ces entreprises qui soit incapable d'honorer une échéance, de payer l'emprunt à l'instant T où elle devait le rembourser, et que ça déclenche
une réaction
en chaîne en disant les gens qui avaient prêté sur cette zone-là se retournent, et ainsi de suite. Et on a quand même la construction d'un capitalisme qui est resté quand même très largement financier, en tout cas qui est resté très largement mondialisé. Donc il y a ce risque-là. Il y a des risques de marché. La nuit dernière, aux États-Unis, est apparu un crash de marché très, très restreint sur un segment qui est un segment très particulier des repurchase agreements. C'est la Fed, la Banque centrale est intervenue très rapidement, ça a été calmé.
53 milliards, on peut le dire, les gens qui nous regardent sont attentifs, 53 milliards de liquidités, 53 milliards qui ont été injectés dans la nuit.
En urgence
par la Banque centrale américaine. Là, c'est un signe de fébrilité quand même.
Exactement, parce que le taux de prêt sur ce segment-là, qui est un taux de prêt entre des établissements financiers, était passé de 0 à 4% en quelques temps. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on a ces endroits, ces cracks de marché qui peuvent apparaître. Il n'y a rien qui soit aussi évident que ce qu'avaient été les subprimes il y a 10 ans. Aujourd'hui, personne ne voit le signe noir.
On ne les avait pas vus venir avant non plus.
Et donc, on s'est posé beaucoup de questions ces dernières années. On s'est dit, est-ce que c'est la tech, les boîtes de la tech? Est-ce que c'est les boîtes du pétrole aux États-Unis? Personne ne le sait, mais il est possible qu'il y ait des cracks qui apparaissent.
Oui, très vite.
C'est-à-dire, le risque majeur, c'est qu'il y a une sorte de relation perverse entre les banques centrales et les États. Normalement, les banques centrales sont indépendantes. C'est un peu écrit dans le marbre, un peu partout. Aujourd'hui, elles ne donnent plus vraiment l'impression d'être indépendantes. Elles sont un peu otages des politiques qui leur disent « Si vous ne nous aidez pas à soutenir la croissance, ça va être la catastrophe. » Ce qui est vrai aussi. Parce que les politiques budgétaires sont, dans un certain nombre de pays, pas en Allemagne, mais dans un certain nombre de pays, un peu à bout. Et donc, les banques centrales disent « n'osent plus inverser la machine. » Mais quand même, il y a plus d'airbags dans le système monétaire. Il y a des trous noirs, mais il y a plus d'airbags qu'en 2008. En tout cas, dans la finance qu'on connaît. Il y a
on
la finance un peu inconnue. Il y a quand même des airbags qui ont été installés un peu partout, notamment dans la zone euro.
Mais vous serez d'accord pour dire que c'est quand même un saut dans l'inconnu pour l'économie mondiale, hors des modèles classiques. Les économistes sont dans l'incapacité de savoir comment l'histoire se termine. Alain Minc est au cœur du système, on le sait, depuis 40 ans. Il imagine même, vous allez le voir, le jour où la Banque centrale devra directement verser de l'argent à tous les Européens. Laura Rado, Thomas Buyer.
Je crois qu'on est entré dans une nouvelle période et qu'en effet, les taux d'intérêt, ils ne sont même plus bas, ils sont négatifs, vont durer. Normalement, le système fonctionnait sur une mécanique très simple qui était... plein emploi entraîne, et c'est logique, des hausses de salaire. Ces hausses de salaire obligent les entreprises qui sont amenées à les payer à augmenter le prix de vente de leurs produits. Donc l'inflation augmentait, et la réaction de toutes les banques centrales à une inflation qui monte, c'est d'augmenter les taux d'intérêt pour calmer cette pression. Or, cette équation est cassée. Il y a plein emploi dans toute une série de pays d'Europe. Et à certains égards, la France est un pays à la fois de plein emploi et de chômage. Il y a des hausses de salaire quand les syndicats sont puissants, c'est-à-dire dans l'économie ancienne. Mais ces hausses de salaire ne se répercutent pas dans l'ensemble du système économique, car l'économie ancienne est au fond une peau de chagrin à l'intérieur du système économique. Et donc, l'inflation ne monte pas. L'inflation ne montant pas, les taux nécessairement resteront bas. À mon avis, c'est une révolution dont on n'a pas encore perçu les conséquences. Les citoyens ne le voient pas vraiment, ou ils n'en voient pour l'instant que le bon côté. C'est que les taux, par exemple, sur les prêts immobiliers sont à zéro plus. Alors ça, tout le monde se dit, c'est formidable. Quand vous allez recevoir un jour de votre banque le fait qu'on vous a retiré 1% ou 1,5% parce que vous avez déposé votre argent à la banque, je pense que vous aurez un haut-le-cœur. Alors, vous commencerez par avoir un haut-le-cœur, et puis après, vous verrez que ça modifiera vos comportements. Les gens déposeront moins d'argent dans la banque, ils achèteront des actifs réels, ils achèteront peut-être des actions, mais ils achèteront de l'immobilier. On a abouti à une situation dont chacun reconnaît aujourd'hui qu'elle est malsaine, c'est-à-dire que la part des revenus du capital s'est accrue de manière excessive aux dépens des revenus du travail. Alors vous allez me dire, il n'y a qu'à rééquilibrer. Comment on fait pour rééquilibrer? On augmente les salaires. Sauf que dans un univers aussi concurrentiel que le nôtre, vous n'avez pas une grande flexibilité sur les salaires. Parce que si une grande entreprise augmente trop ses salaires, elle ne vendra plus ses produits, ce sont ses concurrents internationaux qui le feront. Donc pour ma part, je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen que d'associer les salariés aux revenus du capital, donc au capital des entreprises. Et c'est pour ça que j'avance une idée qui paraît provocante, mais qui ne l'est pas, qui est de dire, je pense qu'il faudrait obliger les entreprises, sur une période de quelques années, à distribuer gratuitement 10% de leur capital à leurs salariés. Moi, je crois qu'on va voir quelque chose qui, là aussi, paraît surréaliste. Je pense qu'un jour, la Banque Centrale Européenne, qui ne pourra plus essayer de relancer l'activité en baissant les taux, c'est-à-dire quand vous êtes à moins 0,5, vous allez passer à quoi? À moins 1, moins 2. Qu'est-ce qu'elle fera? Elle distribuera à travers les États, mais directement de l'argent aux particuliers. Les foyers fiscaux recevront un chèque de la Banque Centrale Européenne avec l'espoir que cette monnaie qui tombe du ciel, c'est pas pour rien que ceux qui l'ont inventée appellent ça la monnaie hélicoptère, comme si en effet vous aviez un hélicoptère qui jette des billets, les gens prennent les billets et on espère que les gens dépenseront.
On est tous pour la monnaie hélicoptère, non?
Non.
Non? Alors Sophie Fay, pourquoi non?
Ouais.
Alors on va écouter vos deux points de vue, allez-y.
Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est une scène quand il y a eu le G7 des ministres des Finances à Chantilly. Il y avait des questions à Bruno Le Maire un peu au déboté et les journalistes allemands lui demandaient pourquoi il était si opposé au Libra, parce qu'après tout, avec ce qu'on était en train de faire sur
Libra,
la monnaie...
C'est la monnaie.
Le Libra, c'est la monnaie de Facebook, parce qu'avec ce qu'on était en train de faire sur la monnaie, c'était normal que le Libra, donc cette monnaie qui n'existe pas encore et dont on ne connaît absolument pas les... Enfin, pas vraiment les règles, pourquoi cette monnaie ne serait pas intéressante quand on voit ces taux d'intérêt négatifs et ce qu'on fait à la monnaie. Donc je pense que le jour où les Allemands recevront un chèque de la BCE, ça sera peut-être un élément déclencheur d'une panique. Donc je trouve qu'il faut être très prudent avec
pourquoi
ça.
Pourquoi d'une panique, Sophie?
La Banque centrale vous envoie un chèque, vous donne de la monnaie. Vous vous demandez quelle est la valeur de la monnaie. Ça pose une question. C'est peut-être complètement psychologique, c'est peut-être absurde en économie, mais si on veut augmenter l'inflation, enfin on augmente les salaires, on ne distribue pas de l'argent aux gens. Ça paraît quand même acrobatique.
Mais pourtant, c'est bien ce qu'on attend finalement de la politique monétaire de la Banque centrale. On attend que les liquidités injectées arrive dans l'économie et donc soit une capacité de dépense pour vous, pour moi, pour tout le monde. Or, ce n'est pas le cas. C'est bien ça le problème, en fait, de la politique monétaire qui a été menée depuis la crise. C'est que cette monnaie centrale ne s'est pas transformée, en tout cas pas plus que proportionnellement, ouais, comme on l'attend en théorie, ne s'est pas transformée en monnaie qui circule dans l'économie.
Elle est passée
un
où
peu, mais pas assez.
Elle est passée où?
Bah, ça tourne un peu en boucle dans la sphère financière, c'est ça le problème, et c'est pour ça que ça forme des bulles. Donc cette idée qui paraît très bizarre d'une monnaie hélicoptère, eh bien au fond, c'est ce qu'on attend de la politique monétaire. On attend de cette politique monétaire qu'elle fasse circuler de l'argent dans l'économie. Ben là, ça tombe d'un hélicoptère. L'idée, elle vient de Milton Friedman, ouais, hein, cet économiste américain qui était extrêmement libéral, mais qui avait une vision en fait exclusivement monétaire de l'inflation. Pour lui, l'inflation, c'était le résultat de la quantité de monnaie en circulation. Donc si on a beaucoup... Eh bien, s'il y a beaucoup d'inflation, il faut réduire la quantité de monnaie. Et si on n'a pas suffisamment, si on est dans des situations un peu déflationnistes, il faut, au contraire, il faut créer plein de monnaie. Bon, la Banque centrale n'a pas réussi, finalement, à le faire dans un contexte un peu déflationniste. Faisons circuler l'hélicoptère monnaie ou le drone
Allons-y
monétaire.
Allons-y pour l'hélicoptère et le drone monétaire.
Et ça fera une capacité de dépense immédiate.
Encore faut-il que ces fonds-là soient dépensés et ne soient pas épargnés.
Ben, il faut sans doute l'obliger. Après, il y a un design très particulier. Il faut bien réfléchir à ce type de proposition. Ouais. Il faut que les gens dépensent ces sommes, qu'ils les dépensent bien. Alors, ce qui implique peut-être d'être un peu coercitif, parce que c'est quoi une bonne dépense, c'est quoi une mauvaise dépense. Il faut que ce soit une dépense dans des produits plutôt... plutôt écologiques. Il faut pas que ça aille trop vers les produits importés, mais... L'idée est intéressante en soi.
L'idée est intéressante et juste, elle est défendue là par Alain Minc, vous êtes économiste, vous la soutenez aussi. En tout cas, ce n'est pas complètement hors sol avec l'idée, parce qu'on parle beaucoup de l'inflation, mais derrière l'inflation, il y a l'idée aussi de relancer la croissance. On est d'accord, Dominique.
Ce qui est intéressant dans les images que vous avez montrées, l'interview, c'est à la fois ce qui est dit par Alain Minc et le sous-titre. On a entendu, le sous-titre, c'est « Les libéraux ». Comme tous les économistes, sont quand même perdus. Tout le monde est perdu aujourd'hui. Et donc, chacun part avec des idées dans tous les sens. Alain Minc n'aurait pas dit ça, et un certain nombre de personnes n'auraient pas dit ça il y a une quinzaine d'années. Le sujet, c'est l'éternelle bagarre entre la macroéconomie et la microéconomie. On se dit, la microéconomie, c'est-à-dire les entreprises, les salaires, le pouvoir des syndicats de négocier dans les entreprises... Ça ne fonctionne pas. Et donc, on n'arrive pas à trouver. Donc, on va passer à des solutions que j'appellerais un peu miracles. L'hélicoptère monnaie, c'est un petit peu la solution miracle qui tombe du ciel et qui serait formidable. Je n'y crois pas beaucoup. D'abord, pour les raisons que Sophie a indiquées, si on veut garder la monnaie unique, il faut que tout le monde soit d'accord. Je ne vois pas du tout comment nos partenaires de l'Europe du Nord seraient d'accord avec ce genre de choses.
D'accord.
Il vaut mieux, peut-être, imaginer des solutions qui permettent de régler les problèmes de la microéconomie. C'est-à-dire faire évoluer les salaires grâce à des protections aux frontières vis-à-vis des produits chinois, etc. Renforcer les pouvoirs de négociation dans les entreprises. Et effectivement, l'idée d'associer les salariés à la gestion de l'entreprise sous certaines conditions
est intéressante. Distribuer une partie du capital.
Mais je ne crois pas tellement aux solutions miraculeuses.
En tout cas, je retiens une phrase de ce que vous avez dit, c'est que je parlais de saut dans l'inconnu. Avec humilité les uns et les autres, vous êtes d'accord pour dire que c'est des modèles d'économie que dans l'histoire de mémoire d'économiste, on n'a jamais vu
On a un tout petit peu l'antécédent du Japon quand même qui mène une politique un peu similaire. Je rappelle juste que la Banque centrale du Japon, donc, qui est quand même une institution monétaire, aujourd'hui est le plus gros actionnaire de la bourse de Tokyo. À 5% de la bourse de Tokyo est détenue par la Banque centrale du Japon, ce qui est quand même un schéma qui là aussi en économie peut sembler assez bizarre. Et justement, quand on est en période de désarroi, moi je pense qu'il faut que les choses soient bien rangées. Et je pense que la politique monétaire, elle est menée par des banquiers centraux qui ne sont pas élus et donc qui n'ont pas à créer des conditions pour, par exemple, distribuer de l'argent sans prendre en compte la richesse des ménages précédemment. Ils n'ont pas à choisir la direction des biens de consommation et à dire vous devez acheter ça ou ça. Ce sont des gens non élus, ce sont des technocrates. De l'autre côté, il y a la politique budgétaire avec des gens qu'on élit tous les 5 ans à qui on confie un mandat pour réduire les inégalités, pour taxer aux frontières, pour faire tout un ensemble de choses. Et donc, il y a eu la politique budgétaire, il y a la politique monétaire et essayons de garder les deux, même si la situation est complexe.
Laissons les banquiers centrales à leur place. Ouais. Allez. Oui,
il y a une autre hypothèse qui est complètement différente. Il y a eu un colloque pendant deux jours à l'OCDE sur l'effondrement systémique, le risque d'effondrement systémique de nos économies. Ils appellent ça le collapse.
Et en fait, merci de terminer par ça.
Ce qui ressort de ça, c'est qu'ils disent, en fait, on s'est peut-être complètement trompé dans nos modèles, et nos modèles ne donnent pas de valeur à la terre, ne donnent pas de valeur aux ressources naturelles. Voilà. Le PIB, ce fameux PIB, est une addition de revenus, mais ne prend en compte aucune dépense. Il fait comme si les ressources naturelles étaient gratuites. Peut-être que ces modèles se sont complètement trompés, et ce qu'on est en train de voir en ce moment, c'est que la croissance n'est pas la solution à tout, et que si on ne fait pas quelque chose de concret et de massif pour ce réchauffement climatique, on va dans le mur. Et faire quelque chose de concret et massif pour le réchauffement climatique, ça veut dire aller en récession, ça veut dire abandonner la croissance, peut-être. En tout cas, c'était la question qui était posée, et c'était très intéressant de les voir réfléchir à ça au sein de l'OCDE, qui est quand même un temple de l'économie classique.
Et nous revenons maintenant à vos questions. Ces taux négatifs augmentent-ils mon pouvoir d'achat ?
Non, enfin, personne pour acheter une maison n'emprunte à taux négatif. La banque ne donne pas d'argent à la fin. Ce sont les États, pour l'instant, hein, qui empruntent à taux négatif. Attention, on parle de les dépôts négatifs sur les comptes en banque. Ça concerne 200 000 euros, 1 million d'euros dans des établissements ultra limités. Donc, pour l'instant, les Français qui nous regardent ne peuvent pas gagner de l'argent en empruntant. Ils empruntent à des taux très, très réduits. Effectivement, 1%, ça dépend des commissions assurance décès, assurance chômage liée, etc. C'est très faible, effectivement, sur des durées très longues, mais pour l'instant, on ne verse pas, on n'apporte pas.
D'accord. Est-ce que d'autres banques européennes le font ?
Oui, au Danemark. Il y a une banque.
Au Danemark qui le fait, puisqu'elle se refinance auprès de la Banque centrale, parce que c'est une banque qui est mineure sur le marché et qui essaie de conquérir des parts de marché.
La consommation ne se décrète pas à Bercy. Les consommateurs méfiants ne vont-ils pas, au contraire, augmenter leur bas de laine ? On en parlait tout à l'heure. Oui ?
Si, il y a un climat d'incertitude, effectivement. Donc, dans ce climat d'incertitude, il peut y avoir ce comportement un peu thésaurisateur, sauf que ce n'est pas rationnel dans le contexte actuel, parce que thésauriser, épargner lorsque les taux sont très bas ou négatifs, ce n'est pas le bon choix. Donc, le bon choix, c'est celui de l'investissement. C'est celui de la dépense.
Endettez-vous.
Quand on le peut.
C'est ça, vous dites, endettez-vous ?
Non, il faut le faire raisonnablement. C'est aux États de montrer le chemin, de le faire raisonnablement et de préparer justement la croissance de demain, celle que l'on veut. Il faut s'interroger sur le modèle de croissance, Sophie l'a dit.
On n'a pas forcément envie de consommer. On voit bien qu'il y a des changements dans la population. Il y a beaucoup plus on a ce projet de loi qui arrive là sur l'économie circulaire. On voit que ça fonctionne, que on ne jette plus, on essaye de revendre, on recycle. Il y a aussi, je ne sais pas si c'est le bon message à envoyer aux gens, de leur dire consommer. Et je ne suis pas sûre que ce soit ce dont ils ont envie. On commence à voir vraiment des changements de comportement.
L'épargne ne rapporte plus rien. L'immobilier est trop cher. Que reste-t-il ? L'or et le bitcoin.
L'or et le bitcoin, l'or a atteint ses plus hauts niveaux. Et le bitcoin qui avait beaucoup baissé est remonté très fortement. Parce que le sentiment est de se dire que ces monnaies qu'on crée en abondance, peut-être à un moment, la confiance va disparaître. Et le jour où la confiance dans ces monnaies disparaît, il restera celles qui sont en quantité limitée. Et l'or, on sait qu'il est en quantité limitée. Le bitcoin, on sait qu'il est en quantité limitée. Donc il y a des gens qui s'y reportent.
Les taux bas à long terme ne seraient-ils pas symptomatiques d'une économie mondiale qui dysfonctionne ? Oui, ce qui fait.
On peut le dire, oui.
Oui. Oui, il y a beaucoup d'argent partout aussi parce qu'il y a, je le disais au début, des pays qui accèdent à la richesse et qui se développent, qui ont de l'industrie et donc qui apportent de l'argent dans le circuit.
Symptôme en tout cas d'une crise qu'on n'a pas réussi à gérer. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la gestion.
La crise de 2008
Exactement. Ouais.
Que se passera-t-il le jour où les taux vont remonter, les prix de l'immobilier ne vont-ils pas s'effondrer faute d'acheteurs ?
On n'y est pas.
Ça, c'est la bombe à retardement, on n'y est pas.
Non, on n'y est pas. A priori, les taux vont quand même rester durablement bas, précisément parce que les banques centrales, là, orientent à nouveau leur politique monétaire vers une politique très, très accommodante. La Fed, qui avait commencé, au contraire, à arrêter un peu, mène une politique monétaire
Ce serait une bonne nouvelle si les prix de l'immobilier, notamment à Paris et dans quelques grandes villes, baissaient. Ce serait une très bonne nouvelle. Aujourd'hui, il y a une exclusion de générations entières qui ne peuvent plus se loger à Paris, et c'est renversant comme idée.
Le spectre de la crise systémique de 2008 est toujours là. La BCE a-t-elle les réserves financières ?
Oui, elle les a toujours. Elle peut toujours aller plus loin dans ces outils dont elle dispose.
Qui sera responsable de la crise si les milliards qu'on injecte dans l'économie se transforment en bulles spéculatives?
Qui sera responsable?
Oui.
Un peu les banques centrales.
Les banques centrales quand même.
Les gouvernements.
Et ben oui, merci. Enfin aussi, non, attendez, pas que les autorités publiques, les investisseurs financiers qui travaillent de l'ombre, c'est-à-dire des fonds qui sont mal régulés. Et il y en a beaucoup dans l'économie.
Et bien merci à vous tous. Voilà. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h25. On se retrouve demain, 17h50. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée sur France 5.